suis content d'être parmi vous. Je vous souhaite un bon matin. Bienvenue. Je vous amène surtout les salutations de toutes vos églises sœurs à travers la province. 83 autres églises comme vous à travers la province qui se réunissent et qui adorent, qui chantent et qui prêchent la parole comme vous. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse ensemble, ceux qui ont lu la publicité, ils ont vu un titre « Besoin urgent d'intercesseurs ». J'aimerais qu'on regarde une diapo qui a paru il y a très longtemps de ça. Alors pour ceux, probablement très rares sont ceux qui n'ont pas vu cette diapo-là. C'est la photo des hommes dans les années 50 qui ont été emprisonnés dans les prisons à Rouyn-Noranda, Asbestos, Val-d'Or. Et peut-être pour ceux qui le savent pas, les quelques-uns qui le savent pas, dans les années 50, on était emprisonnés pour prêcher l'Évangile. Cette photo-là a paru, les hommes qui paraissent là ont fait un total de 7 ans de prison pour avoir prêché l'Évangile dans les années 50. Ils prêchaient l'Évangile au coin des rues, en plein air. Aujourd'hui, c'est plus tellement la pratique. Et bon, les gens se liguaient contre eux et ils faisaient un stage et les magistrats de la ville défendaient de prêcher dans les rues. Alors, ils le faisaient pareil, ils prêchaient l'Évangile. Une église s'est constituée à Rouyn, Val-d'Or, Amos. Et ils étaient envoyés en prison pour 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et si on additionne le total des peines qui ont été faites à ce moment-là, ça représente 7 ans de prison pour tous ces gars-là. Certains d'entre ceux qui sont là sont encore vivants, d'autres sont avec le Seigneur. Mais cette photo-là a voyagé. Et cette photo-là s'est ramassée dans le Time Magazine aux États-Unis. Et ce que ça a produit? Ça a produit des gens qui ont réalisé, ils ont dit, « Wow, on n'est pas en Russie, là? » Et il se passe des choses au Québec bizarres, parce qu'aux États-Unis, il y a quand même un héritage évangélique beaucoup plus grand qu'ici au Canada. Et les gens ont commencé à prier. Quand les gens ont vu cette photo-là, ils se sont mis à prier pour les hommes au Québec, pour les ouvriers au Québec. Et vous savez ce que ça a produit? Premièrement, le courage chez ces hommes-là qui ont su qu'il y avait une armée de prières derrière eux, mais aussi ça a produit dans les années qui ont suivi une éclosion de l'œuvre au Québec. Et je crois que cette photo-là, la prison, a été le plus grand service que certains non-croyants ont rendu à l'Évangile, de faire connaître le besoin de l'Évangile au Québec et que des gens prient pour l'Évangile, pour les ouvriers qui servent le Seigneur, qui évangélisent, et pour tout ouvrier qui travaille à l'avancement de l'œuvre de Dieu au Seigneur au Québec. Et c'est ce matin, c'est de ça qu'on va parler. L'importance de prier pour les ouvriers. Et s'il y a un besoin urgent, et s'il y avait un poste à combler dans le christianisme, si on pouvait le dire comme ça, nous avons un besoin urgent d'intercesseurs pour des ouvriers. Des ouvriers à temps plein, comme des ouvriers qui sont dans différents ministères d'Église, tous les ouvriers, les évangélistes, qu'ils soient rémunérés ou non, les moniteurs d'école du dimanche, il y a une ouvrière qui nous a quittés tout à l'heure pour aller avec des enfants. C'est une ouvrière. Les diacres, les responsables de la jeunesse, les responsables de tout ministère dans une église locale. On a besoin de prier pour ceux qui œuvrent à l'évangélisation, à la formation de disciples, à la formation de leaders, pour ceux qui travaillent comme pasteurs. Tournez, et on va tourner à la prochaine diapo, s'il vous plaît, tournez dans Colossiens, chapitre 4, versets 2 à 4, mais vous pouvez aussi suivre sur l'écran, on peut prendre la prochaine diapo. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. À peu près dans la même période où l'apôtre Paul est en prison, il a aussi écrit quelque chose de semblable aux Éphésiens. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. C'était à peu près le message que l'apôtre Paul lançait à ses frères et sœurs de différentes églises. On a besoin de gens pour prier pour nous. C'est ce que Paul disait. Priez pour nous, pour que Dieu ouvre des portes. Priez pour nous, pour qu'on parle adéquatement de la parole de Dieu. Priez pour nous, pour qu'on soit les ministres de l'Évangile que Dieu veut qu'on soit. Et vous savez, on a besoin de prendre du temps dans la prière et de chercher la face de Dieu. J'aime regarder ce qui est dans la parole. Ceux qui sont habitués de m'entendre enseigner savent que j'aime aussi regarder ce qui n'est pas dans la Bible, qu'on pense qui est là des fois. Vous savez, une chose intéressante ici dans le texte, l'apôtre Paul, il y a des choses que l'apôtre Paul ne dit pas que je pense que moi je dirais. Transposez-vous un peu, changez de siècle, reculez de 2000 ans, je vous invite à faire un stage dans les prisons de Rome. C'est pas tout à fait le Club Med. Il n'y a pas de droit des prisonniers, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a rien, sauf la misère et les rats. Si vous et moi étions en prison et qu'on écrivait une lettre à notre église, probablement qu'on leur dirait une première chose. Priez pour que je sorte de là. Priez pour que je ne meure pas de la peste. Priez parce que la nourriture est infecte. Priez pour que je réussisse à survivre. Priez parce que là, je suis limité, je ne peux pas servir le Seigneur. Priez parce que je suis limité dans ma capacité d'évangéliser. Mais premièrement, probablement que la première requête de prière aurait été « Priez pour que je sorte de là ». C'est intéressant. Élément que l'apôtre Paul ne mentionne pas dans le texte. Bizarre. Au contraire, l'apôtre Paul parle d'ouvrir les cœurs et non les portes de la prison. Bon, ici, je ne veux pas faire tout un détour en passant par l'histoire, et on sait que l'apôtre Paul est mort en prison. On sait que l'apôtre Paul est resté longtemps. Il y avait une certaine latitude dans cette prison, mais il était quand même emprisonné. De la même manière qu'on a le privilège de présenter des requêtes à Dieu, de la même manière, vous savez, la Bible nous exhorte à prier pour ceux qui œuvrent. Toutes sortes de manières d'œuvrer dans toutes sortes de ministères. Le but, c'est la croissance du royaume. Ici, l'élément avec lequel l'apôtre Paul nous demande, c'est de prier. Mais prier pour quoi? Bien sûr, pour des ouvriers. Mais prier pour quoi? Pour des ouvriers. Pour que l'œuvre grandisse. Notre perspective, c'est que l'œuvre grandisse. C'est que des âmes viennent au Seigneur. Que les églises se multiplient. Que l'Évangile soit proclamé. Je lisais dernièrement un document qui parlait d'explosion de l'Évangile dans les pays asiatiques. Et mon ami, j'étais jaloux. Et je voyais comment l'Évangile se propageait, des églises étaient fondées, et des dizaines et des centaines d'églises. Beaucoup underground à ce moment-là. Le but ultime, c'est l'œuvre de Dieu. Souvent, on est tellement centré sur nos prières. Avez-vous déjà remarqué comment nos prières sont souvent centrées sur nos besoins? C'est pas mauvais, mais il ne faut pas que ce soit exclusif. Et souvent, lorsqu'on prie, les premières requêtes vont pour nos besoins. Et Dieu nous permet, bien sûr, de demander pour nos besoins. Mais comme enfant de Dieu, quelle doit être notre perspective? La croissance de l'œuvre. Et si la croissance de l'œuvre est notre perspective, les ouvriers sont des instruments précieux, importants dans les mains de Dieu. Nous sommes appelés à être tous des ouvriers. Certains ont des responsabilités plus grandes que d'autres, plus étendues que d'autres. Alors, l'apôtre Paul, L'apôtre Paul demande, et j'aimerais m'arrêter sur certains mots avant d'aller plus loin. L'apôtre Paul demande de prier avec persévérance. Alors, dans le texte, si on peut changer la diapo. Alors, il dit, persévérez dans la prière. Et dans Éphésiens, il va dire, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Persévérez. Et il va dire des mots qui sont intéressants. Persévérez dans la prière, veillez avec action de grâce et faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications. Dans Éphésiens, il va dire, veillez à cela avec une entière persévérance. Il me semble qu'il utilise beaucoup de mots gros pour définir notre attitude dans la prière. Pour commencer, il dit veillez. Il dit persévérez. Avez-vous déjà passé une nuit debout? Quels sont ceux qui ont déjà travaillé de nuit? Vous savez ce que ça veut dire, veiller, vous autres. Hein? Moi, j'ai déjà travaillé de nuit. Avant d'être pasteur, j'étais infirmier. Et je vous dis, quand tu t'endors et que la tête tombe toute seule, veiller prend tout son sens. En fait, veiller, c'est le contraire de s'endormir. Et quand l'apôtre Paul dit « veiller », alors il est en train de dire « ne t'assouplis pas dans ta vie de prière ». Relâche-toi pas dans ta vie de prière. Sois aux aguets. Ce qui faisait l'éveil, les soldats romains, lorsqu'ils veillaient, il y avait différentes veilles, il y avait 4 veilles dans la nuit. Et l'essentiel, c'était de rester aux aguets, parce que l'ennemi pouvait arriver. C'est l'essentiel du mot « veiller ». Rester aux aguets pour pas que l'ennemi nous arrive dans le dos. Mais non seulement il dit « veiller », déjà « veiller », c'est pas évident quand on s'endort, là. Mais il dit « veiller avec persévérance. Avez-vous besoin de persévérance pour vous asseoir à table pour manger? C'est facile. Hein? Non. On n'a pas besoin de ça. Avez-vous besoin de persévérance pour aller vous coucher le soir? Moi, jamais. Jamais. La notion de persévérance passe par le fait que c'est pas simple. C'est pas naturel. Ça ne vient pas tout seul. On n'est pas venu au monde avec. La notion de persévérance passe par la notion d'endurance. On ne persévère jamais quand c'est facile. On se laisse aller, tout simplement. Moi, je n'ai pas besoin de persévérer pour aller me coucher le soir. J'ai besoin de persévérer si je veux veiller. Si je veux rester debout, j'ai besoin de persévérer. Si je fais une diète, j'ai besoin de persévérer. Si je fais quelque chose contre ma chair, j'ai besoin de persévérer. C'est intéressant. Il associe le mot persévérer à la prière. Parce que, soyons honnêtes, c'est pas naturel de persévérer dans la prière. Ça vient pas tout seul. Le relâchement est tellement facile. Le relâchement est tellement facile. Il dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Veillez à cela avec une, comme si le mot persévérance, comme si le mot veiller était pas assez, comme si le mot persévérance était pas assez, il dit, avec une entière persévérance. En voulez-vous plus? Ben déjà qu'on me dise de persévérer, c'est pas mal. Puis qu'ensuite qu'on vienne me dire une entière persévérance, c'est comme un tas de gros mots, un tas de mots importants pour me dire, Gilles, la prière est importante. La prière est importante. La prière est capitale dans ta vie. La prière est capitale dans ta vie. Vous savez, souvent on pourrait remplacer le mot persévérer dans la prière. On pourrait remplacer le mot persévérance par le mot sporadique. Dans notre vie de prière, souvent, on est plutôt sporadique que persévérant. On va prier quand ça va mal. On va prier quand on a des problèmes d'argent. On va prier quand on a des problèmes de santé. On va prier quand nos enfants nous font du trouble. On va prier quand on a des problèmes de couple. On va prier quand on est sur la veille de perdre notre job. Vous avez déjà vu ça? Hein? Vous avez déjà peut-être vécu ça? Souvent, dans mon jargon à moi, j'appelle ça le Dieu garagiste. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je ne vais pas prendre mon café au garage. Je vais chez Tim Horton. Ou la crèmerie, là, brûlerie, là. Je vais prendre mon café là. Mais quand je vais au garage, c'est parce que j'ai des problèmes. Je ne vais jamais traîner au garage, à moins de travailler là comme d'autres. Je ne vais jamais traîner au garage pour passer mon temps. Je vais au garage quand j'ai des problèmes. Quand je n'ai pas de problème, je ne vais pas au garage. Beaucoup de chrétiens abordent la vie chrétienne comme ça. On va voir Dieu quand on a des problèmes. Oh, prière d'adoration le dimanche matin. Mais Dieu, dans notre vie de prière, demande plus qu'une présence sporadique. Il demande plus qu'une visite occasionnelle. Dieu demande une relation continuelle. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul utilise des mots aussi gros, aussi importants que persévérer, entière persévérance, veiller à notre vie de prière. Alors, l'apôtre Paul utilise des mots qui sont gros. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de se faire exhorter à la persévérance? Parce que c'est quelque chose qu'on néglige facilement. Parce qu'on a tendance à prier dans des temps de crise, de grands besoins. On a tendance à manquer de foi. C'est difficile de parler à quelqu'un qu'on ne voit pas. On aimerait lui prendre la main, on aimerait le regarder avec nos yeux. C'est difficile de parler avec quelqu'un qu'on doit croire par la foi qui nous entend parce que notre foi est faible. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se faire exhorter par l'apôtre Paul à prier. L'apôtre Paul va dire dans les Thessaloniciens, priez sans cesse. Comment va ta vie de prière? Comment va ta vie de prière? Est-ce que ta vie de prière est sporadique, persévérante? Est-ce que ta vie de prière est égocentrique ou ta vie de prière a une perspective globale de l'œuvre de Dieu? Comment va ta vie de prière? Et l'apôtre Paul dit de prier en sachant dire merci, non seulement avec persévérance, mais il dit aussi persévérer dans la prière, veillez-y avec action de grâce, sachant prier en sachant dire merci. Dire merci après avoir reçu la réponse à nos requêtes, c'est de la reconnaissance. Mais dire merci avant d'avoir reçu la réponse à nos requêtes, c'est de la foi. Et c'est dans cette attitude-là que l'apôtre demande de prier. Prier avec action de grâce. Prier en sachant dire merci. Sachant dire merci. Merci parce qu'il nous a entendus. Merci parce qu'on croit. Et vous savez, quand on parle de prière, ici, j'aimerais faire une parenthèse, une notion qui est importante à se rappeler. Beaucoup de gens vont mettre parfois beaucoup plus d'emphase dans l'exercice de la prière plutôt que de placer notre foi dans la personne à qui on prie. Notre foi ne doit pas être placée dans l'exercice de la prière, mais dans la personne à qui on prie. C'est pas parce que j'ai dit des mots de prière que j'ai nécessairement prié. Parce qu'on peut prier sans que notre cœur y soit, sans que la foi y soit. On peut dire des mots religieux. On peut dire des mots acceptables pour les autres. Et on peut faire une liste de requêtes à Dieu en nommant des choses glorieuses. Et vous savez, ce n'est pas l'exercice de la prière qui rend la prière puissante. C'est la foi dans celui à qui on prie qui rend la prière puissante. Et ça, c'est peut-être une notion importante à se rappeler dans notre vie de prière. Prier avec action de grâce, sachant dire merci par la foi à celui qui nous entend et qui nous écoute. Ayant dit ceci sur la prière, ayant regardé la prière avec foi, avec persévérance, la parole nous exhorte à prier pour ceux qui, si on peut changer la diapo, à prier pour ceux qui œuvrent. Paul exhorte les Colossiens en leur demandant des requêtes spécifiques pour son ministère en prison. Imaginez, l'apôtre Paul demande à ses amis, priez pour mon nouveau ministère en prison. En prison, prier pour des ouvriers. J'aimerais vous présenter certains chiffres, certaines notions. Si on peut aller avec la prochaine, s'il vous plaît. Je vais vous présenter certains chiffres. Peut-être que vous savez, peut-être que vous ne savez pas. Si vous savez, pardonnez-moi. Si vous ne savez pas, bien, considérez ça. Vous savez à peu près qu'on est 0,6% d'évangéliques, de chrétiens évangéliques au Québec, per capita. Ça veut dire 50 000 sur 8 millions. Dans la province de Québec. Si on compare, Bien, ça veut dire un Canadien sur 12. Vous allez rencontrer 12,5 Canadiens. Je ne sais pas de quoi il a l'air le 0,5 Canadien, mais c'est des pourcentages, hein, vous avez compris. Alors, vous allez rencontrer, à chaque 3 Américains, vous allez rencontrer un chrétien. À chaque 15 Mexicains, vous allez rencontrer un chrétien. Mais à chaque 160 Québécois, vous allez rencontrer un chrétien. C'est du monde, hein? Avant de rencontrer un chrétien. Si vous allez aux États-Unis, au Walmart, vous pouvez acheter une Bible. Avant qu'on vende des Bibles au Walmart, il va se passer du temps. Changeons de diapo. J'aimerais vous emmener ailleurs. Savez-vous que le Québec est un des champs missionnaires qui a le plus grand besoin au Québec? J'aimerais ici revisiter votre notion du champ missionnaire. Usuellement, quand on pense à mission, on pense à loin. On pense à traverser l'océan. On pense à aller dans des pays éloignés. On pense à aller dans une autre culture. On pense à loin quand on parle mission. On ne file pas très mission ici ce matin, dans une belle grande salle avec des présentations PowerPoint, avec de la belle musique. On ne file pas très mission. On va revisiter ça. Prochaine diapo. Si on regarde le pourcentage des évangéliques, pardonnez la couleur ici, si on regarde le pourcentage des évangéliques dans les trois Amériques, si vous regardez l'Amérique du Sud, vous avez la population 1 million à la fin, le pourcentage d'évangéliques au centre et les pays. Si vous regardez au Canada, il y a 11, les chiffres sont peut-être plus vers 12. Aux États-Unis, c'est le tiers. Regardez Mexique, Nicaragua, regardez l'Amérique du Sud, le pourcentage de chrétiens en Amérique du Sud, et regardez le Québec en bas. On est loin, hein? Savez-vous que de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale, le Québec est le tiers-monde évangélique des trois Amériques. Le Québec est le tiers-monde évangélique des trois Amériques. Allons en Afrique. Prochaine diapo. Allons en Afrique. Parce qu'en Afrique, on envoie des missionnaires. Regardez, vous avez encore la population 1 million, regardez le pourcentage d'évangéliques dans les différents pays d'Afrique. Et regardez le Québec en bas. Il y a plus de chrétiens en Égypte qu'il y en a au Québec. Mais là, vous me dites, on envoie des missionnaires là-bas. Es-tu en train de dire, Gilles, qu'on ne doit plus envoyer de missionnaires? Non, non, non. J'ai un point ici à prouver. Pourquoi il y a des chiffres comme ça en Afrique, en Amérique, dans les autres pays d'Amérique? Parce que depuis 200 ans, on envoie des ouvriers. Depuis 200 ans que les sociétés missionnaires existent, on envoie des ouvriers. On a envoyé des missionnaires. Les missionnaires ont prêché l'Évangile. Les missionnaires ont eu des fruits à leur travail. Des conversions sont arrivées. Des nationaux sont venus au Seigneur. Et des nationaux ont pris le leadership de ces pays-là. Et ils ont continué de prêcher l'Évangile. Et on a prié pour les missionnaires. Et on a prié pour les missionnaires à travers les deux derniers siècles que les sociétés missionnaires existent. Et ça a produit. Revenez, je vous rappelle la première diapo. En 1950, on a prié pour les hommes en prison au Québec. Et dans les années 70-80, on a eu tout un vent de l'esprit. Et des centaines de conversions au Québec. Les églises se sont multipliées d'une façon extraordinaire au Québec. Parce qu'il y en a qui ont prié pour des ouvriers. Qui ont prié pour les ouvriers. Maintenant, si on veut se comparer, à qui on se compare? Tournons, prochaine diapo. Allons faire un tour en Europe et en Asie. En Inde, 1,8%. En Belgique, Italie, France, Liban, ça ressemble pas mal au Québec. Le Japon, on est un pays aussi missionnaire que le Liban. On a autant besoin de l'Évangile que du Japon, pays bouddhiste. Le Liban, pays musulman. On n'est pas loin du Pakistan. 0,4%. Le Québec a vraiment besoin de l'Évangile. L'apôtre Paul, il dit, priez pour les ouvriers. Priez pour les ouvriers. Priez que Dieu envoie des ouvriers et priez pour les ouvriers qui sont là, pour le ministère dans lequel ils sont. Priez pour ces hommes-là. Prochaine diapo. Priez que Dieu ouvre des portes. priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. J'aime ça lire ça. L'apôtre Paul, il dit pas prier pour que mes chaînes tombent. Prier, il dit pas prier pour que les portes de la prison s'ouvrent. T'es malheureux au travail? Prie pour que Dieu ouvre des cœurs à ton travail au lieu de te sauver de ton travail. T'aimes pas ton environnement? Je suis certain que l'apôtre Paul n'aimait pas le sien non plus. Je suis certain qu'il n'aimait pas le sien. T'aimes pas le monde qui t'entoure au travail? On pourrait les changer pour les gardiens de prison que Paul avait. As-tu déjà pensé à prier pour que Dieu t'ouvre une porte plutôt que prier pour que tu prennes la porte? Vous riez? Beaucoup de chrétiens sont venus me voir souvent en disant « Gilles, prie pour que je change de job ». À chaque fois, je dis « Non, je vais prier pour que tu changes d'attitude ». Ou encore, on vient me dire « Gilles, prie pour mes parents, mes parents ne sont pas endurables ». Non, je vais prier pour que tu honores tes parents. Souvent, nos prières sont beaucoup plus pour se soulager de nos misères. Et l'apôtre Paul, ici, il est en train de dire « Priez pour que du milieu de ma prison, je sois un témoin pour l'Évangile ». T'es malade? Prie pour que Dieu révèle sa grâce à travers ta maladie. Peut-être que tu fais face à la mort et c'est inévitable. Prie pour que Dieu te donne la grâce d'être un témoin face à la mort plutôt que de prier pour la guérison. Peut-être que oui, la guérison, mais peut-être que non. Peut-être que non. Et dans Éphésiens, il va dire « Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis l'ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance. » Priez pour des opportunités. Priez pour que Dieu ouvre des portes. L'apôtre Paul nous encourage à prier pour que de prier pour que des portes s'ouvrent pour ceux qui travaillent pour le Seigneur à tous les niveaux. Est-ce que vous priez pour les moniteurs d'école du dimanche? Pour que le cœur de ces enfants-là s'ouvre à l'Évangile. Est-ce que vous priez pour régulièrement pour vos pasteurs? Est-ce que vous priez régulièrement pour vos diacres qui rendent un service à l'Église? Est-ce que vous priez régulièrement pour ceux qui ont des responsabilités d'évangélisation, ceux qui ont des responsabilités sur les gens? Est-ce que vous priez pour ceux que vous savez qui évangélisent dans votre assemblée? Est-ce que vous priez pour ces gens-là? La prière a rendu l'Afrique, avec les pourcentages de chrétiens qu'on connaît aujourd'hui, la prière de ceux qui ont vu les hommes en prison au Québec a fait de ce que nous sommes aujourd'hui, a fait du Québec ce que nous sommes aujourd'hui, parce que des gens ont prié pour des ouvriers. Ils ont prié pour des ouvriers. Et ils ont eu à cœur de voir l'œuvre de Dieu et de voir les besoins de l'œuvre de Dieu et de prier pour les hommes que Dieu emploie dans cette œuvre-là. Vous savez, un des plus grands supports que vos pasteurs, vos leaders ont besoin dans cette Église, c'est de vos prières, soutenues, régulières et non sporadiques. Vos prières persévérantes, et que vous y veillez avec action de grâce. Pas juste pour vos besoins personnels, pour les besoins de l'œuvre. Pour les besoins de l'œuvre. Est-ce que dans l'Église de Longueuil, on retrouve des activités de prière ou on retrouve une Église qui prie? C'est différent, hein? Avoir des activités de prière. Dans nos statistiques d'association d'église, vous savez, le dimanche matin, comme vous, là, il y a 8000 personnes qui se réunissent à travers nos 84 églises de notre association. Environ 8000 personnes. Il y a bien d'autres églises qui se réunissent aussi. Mais juste dans notre famille d'association. Et savez-vous, les chiffres qu'on a recueillis des églises nous disent que des 8 000 personnes qui se réunissent le dimanche matin, 17 % participent à une réunion de prière durant la semaine. 17 % Où y sont les 83 autres? Ben, plusieurs ont des responsabilités. Est-ce qu'ils ont tous des responsabilités? nécessairement. Et c'est pour ça, vous comprenez, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, priez, veillez-y, veillez-y avec persévérance et priez avec action de grâce, parce que l'œuvre en a besoin, les ouvriers en ont besoin, la croissance de l'œuvre en a besoin. Priez pour que Dieu ouvre des portes, priez pour que les ouvriers ne se découragent pas. Dans les années, dans notre petite association, entre les années 1900, entre 1990 et 2000, dans un moment donné où il y avait au Québec entre 55 et 70 églises, nous avons perdu dans notre association 45 pasteurs. 45 pasteurs dans ces 10 ans-là. Est-ce que vous savez que dans les 18 derniers mois qui viennent de se passer, de janvier 2009 à juin 2010, nous avons perdu 11 pasteurs dans notre association. On a aussi 10 églises sans pasteurs. On a besoin d'ouvriers. Et la Bible nous dit de prier pour les ouvriers. Prier pour que ceux qui sont là, ils restent, qu'ils ne se découragent pas. Prier que Dieu les fasse grandir, parce que c'est des êtres humains. Ils luttent avec le péché, eux aussi. Ils ont besoin de grandir. De prier pour qu'ils aient des opportunités pour parler de l'Évangile et créer un impact pour Dieu. Prier pour que d'autres entrent dans la moisson au Québec. On a sur notre liste 20 villes pour aller implanter des églises dans le Québec. On n'a pas les 20 ouvriers. On n'a pas les 20 ouvriers. Le Québec a tellement besoin de l'Évangile. Vous avez vu les chiffres? Nous sommes au Québec un tiers-monde évangélique pire que l'Afrique. On a besoin de prier pour les ouvriers qui sont là et pour les autres qui vont venir. Priez pour que, prochaine diapo, priez pour que les ouvriers aient le courage de parler de Jésus. Le courage. Il me semble que le mot courage est le dernier mot que j'aurais collé à l'apôtre Paul. Je ne sais pas. Je lis les épîtres, puis je me dis, ça devait être tout un monsieur. Dans notre langage contemporain, ce monsieur-là devait avoir du drive et du caractère. Hein? L'apôtre Paul, quand il était décidé à aller quelque part, il avait juste l'esprit pour l'arrêter, heureusement. Hein? Mais l'apôtre Paul était, vous savez, avant de venir au Seigneur, l'apôtre Paul était tout un numéro, on va le dire comme ça. Et Dieu a utilisé cet instrument-là pour la propagation de l'Évangile. Le même gars qui nous apparaît aussi fort de caractère, le même gars qui nous apparaît aussi décidé, aussi leader fort, dit en même temps, « Priez pour que j'aie du courage. » Courage de continuer. Mettez-vous dans la tête là, que celui qui dit ça, il est en prison à Rome. Le courage de continuer. Le courage de ne pas se décourager. Le courage de parler au gardien de prison, qui ne devait pas être toujours si commode que ça. Et on sait par le restant des textes que toute la maison de César a entendu parler de l'Évangile. Paul a prêché l'Évangile aux grands, aux petits comme aux rois. Le courage. Vous savez, nous autres, les ouvriers, là, on est comme vous. On est chicken à nos heures. On a besoin de courage. Pourquoi il y a des ouvriers qui se découragent? C'est parce qu'ils manquent de courage. Et les ouvriers ont besoin de votre support dans la prière. Les leaders ont besoin de votre support dans la prière. Quand le berger se décourage, où vont les brebis? Il y a de l'impact. Il y a de l'impact là-dedans. Le courage de parler de l'Évangile, le courage d'annoncer l'Évangile comme elle doit être annoncée, le courage d'entrer dans les portes que Dieu ouvre. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 1, si on peut tourner, c'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et il dit à Timothée, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. J'aimerais ajouter, c'est pour l'Évangile que vos moniteurs d'école du dimanche travaillent. C'est pour l'Évangile que vos pasteurs et anciens diacres travaillent. C'est pour l'Évangile qu'il va y avoir quelqu'un responsable de ce bâtiment-là pour faire un travail, pour le mettre en bon état, pour que les gens viennent annoncer l'Évangile ici, que les gens viennent entendre l'Évangile ici. C'est pour l'Évangile qu'il y a des tas de gens qui se donnent pour œuvrer, même dans des endroits sombres qu'on ne voit pas, dans l'ombre. C'est pour l'Évangile que ces gens-là servent. Pensez-vous à prier pour ces gens-là? Ils ont besoin de ne pas se décourager. Ils ont besoin de cette force, de ce courage. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sens qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt. Et aussi, autre page, il dit, car j'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance. Et vous savez, moi, j'ai besoin de cette puissance-là. Si j'annonce l'Évangile, c'est pas pour moi un sujet de gloire. La nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si j'annonce pas l'Évangile. Vous savez, l'apôtre Paul exhorte les gens de Colosse et d'Éphèse à prier avec persévérance, sans relâche. Comment va ta vie de prière? Où t'en es maintenant? Est-ce que tu t'es relâché? Est-ce que ta vie de prière est plutôt sporadique que régulière? Est-ce que tu as pris l'habitude d'aller voir le Dieu garagiste juste quand ça va mal? Ou la prière est un temps quotidien que tu prends avec Dieu? Et dans ta prière, est-ce que tes requêtes de prière sont uniquement centrées sur toi-même ou sur ta perspective aussi de l'œuvre? Est-ce que tu as une liste? Est-ce que tu as une liste des hommes et des femmes qui ont une responsabilité dans cette Église? Et est-ce que tu pries régulièrement pour chaque homme et chaque femme qui ont une responsabilité dans cette Église? À tous les niveaux, est-ce que tu pries pour eux régulièrement, avec persévérance et en y veillant? Parce que vous savez quoi? L'œuvre en a besoin. Est-ce que tu pries pour des ouvriers au Québec? Je vous ai prouvé, chiffre à l'appui, que nous sommes un tiers-monde évangélique. Est-ce que tu pries pour une visite du Saint-Esprit dans la province de Québec? Vous savez, on dit que ceux qui acceptent le plus l'Évangile présentement au Québec, ce ne sont pas les Québécois, ce sont les allophones. Les Haïtiens, Sud-Américains, Africains, toutes sortes. On réalise que les allophones acceptent l'Évangile beaucoup plus que les Canadiens français, parce que les Canadiens français se sont laïcisés, ils ont rejeté l'Évangile, ils ont rejeté la religion, ils ont rejeté tout ça, et nous sommes devenus une société hyper séculière. Il faut prier pour le tiers-monde évangélique du Québec et pour ceux qui y œuvrent. Et vous savez, c'est nous, c'est vous et moi qui sommes appelés par l'apôtre Paul à persévérer, qui sommes exhortés, comme l'apôtre Paul l'a fait pour les Colossiens et les Éphésiens, qui sommes exhortés à prier avec persévérance pour ceux qui œuvrent pour l'Évangile. Courbons-nous un instant. Père éternel, merci pour cet exemple de l'apôtre Paul. et cette exhortation. Pardon, Père éternel, pour tous ces moments de relâche. Et je réalise à quel point nous, comme famille chrétienne, comme enfants de Dieu, nous avons besoin de se discipliner à la prière. Premièrement, viens augmenter notre foi. Donne-nous cette grâce de persévérer sans relâche. Aide-nous, Père éternel, à voir le besoin qui nous entoure, les milliers d'âmes, ce 99,4% de gens qui ne te connaissent pas et qui n'iront pas au ciel sans la repentance en Jésus-Christ. Père du ciel, aide-nous à avoir à cœur de prier pour des ouvriers, prier pour ceux en place, ceux qui vont venir. Oh Seigneur, on a tellement besoin de ta grâce pour se donner cette discipline personnelle de persévérer dans la prière. Merci de nous avoir donné ton Saint-Esprit pour nous permettre de relever quelques défis que ce soit. Merci, Père éternel, que même ton Esprit nous aide dans nos prières à savoir quoi dire et comment intercéder. Viens au secours de notre faiblesse, Père éternel, par la puissance de ton Saint-Esprit. Apprends-nous à prier avec persévérance et avec action de grâce. C'est à travers Jésus-Christ que je te demande ces choses. Amen.